L'écran radiophonique, Radio Canut vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre, Afrique, Tristesse. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP. Sur la mer houleuse a de la peine à tenir. Et Lou, le noir, essaie de la gouverner. Sylvain, allongé, souffre de la jambe à chaque secousse que donne la barque. Il a de la fièvre et sa jambe enfle de plus en plus. Il aimerait pouvoir hurler d'aller plus vite. Il ne veut pas mourir dans cette barque seule avec Lou, qui a de la peine à guider la barque car la pluie et la nuit l'empêchent de voir. Il en veut à son jeune maître d'avoir voulu partir en pleine nuit et par ce temps. Au loin, au bord de la plage se trouve une maison blanche. À l'intérieur, dans un salon colonial, Pierre. Il est à son bureau et écrit. Une petite lampe à pétrole éclaire la feuille. Pierre s'applique en écrivant. Son écriture est petite et ronde. On entend le bruit que fait la plume de son porte-plume. Il s'arrête après avoir fini sa phrase. Cela fait 3 heures qu'il a écrit sans interrompre. Il est 4 heures. Cela suffit. Il relit ce qu'il a écrit en marchant. Il y a des moments où mon esprit a besoin de petites joies, d'une vie simple, calme, sans histoire et grandes idées. J'ai envie de m'enfoncer dans la foule et de me laisser guider par elle. Mon esprit est fatigué. J'ai besoin de laisser mes idées au vestiaire. Toutes ces idées qui, au lieu de me mener vers un asile de paix, me mènent dans un monde brillant d'insécurité et de dégoût. J'ai besoin d'une vie tranquille et sans histoire. Et malheureusement, il m'est impossible de me fondre dans la foule. Mon œil est un œil qui a appris à voir. À chaque instant, il ne lâche pas mon esprit. L'on frappe à la porte. Il va ouvrir. Sylvain, mais que t'arrive-t-il? Sylvain n'a pas eu le temps de répondre. Il s'est évanoui. Lou, qui était derrière lui, a tout juste eu le temps de le rattraper. Pierre le lui prend et le porte dans ses bras. Si vint, et ruisselant et sans connaissance. Pierre le porte dans une chambre du haut. Sylvain se réveille. Il voit à travers ses boucles d'or qu'il est dans une pièce baignée de soleil. Il a chaud et sent une douleur à la jambe droite. Cette jambe a l'air dure et raide. Une main se penche vers lui et lui range ses cheveux. Sylvain voit le visage de Pierre près de lui. Alors, il se souvient. D'un coup, il se soulève et blottit sa tête contre la poitrine de Pierre en fermant les yeux de douleur et lui dit « Pierre, Pierre, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. » Pierre lui soulève légèrement la tête. « Mais qu'est-ce qui te dit que tu vas mourir ?» Il repose sa tête sur sa poitrine, lui embrasse le haut du crâne et lui caresse ses cheveux. « Pourquoi dis-tu que tu vas mourir ?» Sylvain s'agrippe encore plus fortement que sa Pierre. « J'ai été mordu par un séphir. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de contrepoison. » Pierre serre encore plus fortement la tête de Sylvain contre lui. « Tu es sûr que c'est un séphir ?»« Oui, Pierre. Il est mort tout de suite après m'avoir mordu. Je l'ai vu. Il était dans mon lit. C'est elle qui l'a mis. Elle ? Qui ? Élise. C'est impossible. Si c'est possible. » Et il s'assoupit. Pierre l'allonge dans le lit, le couvre. Pierre est sceptique, il ne comprend rien à cette affaire. Sylvain a bien un pied enflé et rouge, mais est-ce bien une piqûre de ses filles? Pierre a envoyé Elou chercher le médecin. Ils n'arriveront sûrement pas avant 3 jours. Dans la soirée, Sylvain s'est réveillé. Pierre est près de lui. « Reste calme, Sylvain. Le médecin sera là dans 2 jours. »«
Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de contrepoison, Pierre. Je ne veux pas mourir. »
Pierre lui prend la main. « Qui te dit que tu vas mourir? Es-tu sûr au moins que c'est le séphir ?»«
Oui, Pierre. Et c'est elle qui me l'a mis dans mon lit. »«
Mais c'est pas possible. »
Si, c'est possible.
Pourquoi aurait-elle fait ça?
Par jalousie. Par jalousie. Tout ceci ne se serait pas passé si je n'avais pas été dans l'île avec Edmond.
Pierre se souvient. Sylvain avait 17 ans et jusqu'à l'arrivée de son oncle Edmond, il avait vécu comme un petit sauvage, à courir sur la plage, à aller avec les noirs sur la mer pêcher. Edmond est venu avec sa femme et sa belle-sœur Élise. Ils ont voulu emmener Sylvain avec eux dans leur île. Pierre a accepté, il croyait que ça ferait du bien à Sylvain de quitter le pays de son enfance. Lorsque je suis arrivé sur l'île, je suis surpris par la tristesse du paysage, car malgré le soleil, tout semblait mort et triste. Mon oncle habitait une maison sur une colline au pied d'un village fait de huttes. Cette maison était très grande, elle avait le style Victoria. Vivaient en plus de mon oncle et ma tante, sa sœur Élise et de nombreux domestiques noirs. Edmond avait une mine de diamants et s'en occupait constamment. Sa femme ne travaillait pas, ni Élise, qui était veuve depuis peu d'un banquier anglais. Mon oncle m'avait fait venir chez lui pour que je puisse l'aider. Premier jour, je me sentais gêné et ne savais que faire. Lentement, s'est très vite rendu compte que je ne servais pas grand-chose et qu'au lieu de l'aider, je le gênais plutôt. Alors chaque matin, il me laissait à la maison avec les femmes. Il voulait que j'étudie la comptabilité. Je m'inscris à une école par correspondance. Je passais mes journées entières enfermées dans ma chambre à étudier. Je ne sortais de ma chambre que pour les repas que nous prenions là la plupart du temps sans Edmond. Les repas étaient pour moi une véritable corvée. Je n'avais jamais reçu une véritable éducation. Chez nous, nous mangeions à la va-vite et sans cérémonie. Même la plupart du temps dehors, assis à terre, avec du pain et un fruit. Chez mon oncle, ce n'était pas pareil. Il fallait se servir correctement des couverts et surtout manger devant tout le monde, même les domestiques. Je ne savais pas me servir d'un couteau correctement. Peler une orange avec un couteau et une fourchette, pour moi, était une véritable sinécure. Je préférais me passer de certaines choses que d'avoir l'air gauche et ridicule. En plus de cela, il fallait manger habillé, en costume. Durant les repas, je ne regardais pas mes voisines, mais elles m'observaient. Un soir, lorsqu'elles m'ont rentré, nous étions tous au salon. Moi, je lisais ou faisais semblant de lire pour me donner une contenance. Ma tante Zoé jouait du piano. Mon oncle arrivait. C'était pour moi toujours un événement de le voir arriver. La porte s'ouvrait. Il était grand, mince, les cheveux noirs, la peau hâlée par le soleil. Il était habillé tout de blanc, avec une veste saharienne, une chemise et une culotte de cheval. Il avait des bottes noires, son œil vif, petite moustache et son sourire le rendaient irrésistible. À 40 ans, il apparaissait à peine 35. J'aurais aimé lui ressembler. Moi, avec mes 17 ans, mon corps gringalait. Mes cheveux d'or qui ondulaient et mon visage angélique. En arrivant, il saluait tout le monde. Il allait se servir du chéri. Il racontait ses difficultés de la journée à faire travailler les noirs. Une heure après, il était 23 heures. Nous allions tous nous coucher. Durant un mois, je restais ainsi enfermé dans ma chambre sans sortir. Je dépérissais, moi qui avais vécu au grand air. Zoé vint vers moi et me demanda si je voulais l'accompagner pour faire un tour dans le parc. Je rougis et lui dis oui. La mer était forte, mais l'air embaumait de mille parfums.
Ma tante était de la même taille que moi. Elle avait 30 ans, mais paraissait beaucoup plus jeune que son âge. Elle était très élégante, mince, le visage enfantin, les cheveux mi-longs, noirs. Elle portait ce soir-là une robe longue, blanche, toute simple. Nous marchions sans nous parler. Je n'osais pas la regarder, mais elle me regardait. Tout en marchant, elle m'adressa la parole. Vous vous ennuyez pas trop chez nous, Sylvain? Votre père ne vous manque pas? Je lui dis que non. Elle me demanda comment je vivais chez mon père. Alors je lui racontais mes journées sur la plage. Elle me dit que désormais, nous sortirions ensemble le soir. Je devenais moins en moins sauvage, et lors de nos sorties, le soir avec ma tante, je l'observais, je la trouvais très belle, et cette beauté me troublait. Elle voyait que j'étais troublé. Je m'éveillais et me rendais compte que j'avais beaucoup d'affection pour elle. Son mari était très volage et souvent elle pleurait de ses infidélités. Élise nous observait sans rien dire. Au village noir. Élise entra dans ma chambre. J'étais allongée, me levais d'un bond, elle s'approcha de moi. Je vous ai réveillé? Non. Elle regarda la pièce. Alors c'est ici que vous passez toutes vos journées. Pourquoi restez-vous toujours enfermée? Elle s'assit sur le lit. Asseyez-vous près de moi. C'est ce que je fis. Méchant, vous ne faites jamais attention à moi. Vous semblez tellement sérieux que j'en suis toute retournée. Regardez comme mon corps bat. Elle me prit la main et la déposa sur son sein gauche. Elle avait une mince robe d'été et pas de soutien-gorge. Elle me maintint la main fermement sur son sein, ferme et doux. Je me mis à rougir car je bandais. Elle s'en aperçut, me mit la main sur ma braguette de mon pantalon, ouvrit la fermeture à glissière. La maison était silencieuse, il était 14 h, les domestiques faisaient la sieste, la chambre était baignée de soleil, il faisait très chaud. Elle se pencha vers moi, je fus forcé de m'allonger. Et les yeux mi-clos, je n'osais pas la regarder. Elle déboutonna ma chemise, je n'avais rien dessous. Me caressa la poitrine, fit descendre mon pantalon. Je pendais tellement que mon sexe était presque sorti de mon slip noir. Elle le fit descendre aussi. Elle enleva sa robe et elle n'avait rien dessous. J'étais brune comme Zoé, mais plus petite qu'elle et plus en chair. Je ne bougeais pas. C'était elle qui fit que j'eus ma première expérience sexuelle. Je fus surpris que ça soit passé de cette façon, mais je n'étais pas troublé. Je n'aimais pas Élise. J'avais même un peu honte.
de l'avoir fait avec une personne qui m'était indifférente. Me rejoindre très souvent dans ma chambre l'après-midi. Je n'attendais pas ses visites. Mais elle, par contre, je ne sais pourquoi, elle s'était amourichée de moi et de mon corps. Elle voulait que je devienne sa chose. C'était une femme de 25 ans à tempérament très fort qui faisait tout avec fougue et passion. Isolement, la vie repliée sur elle-même, ses rêves lui faisaient prendre la moindre petite chose pour une aventure romanesque et fougueuse. Elle sublimait sa vie. Moi, je faisais très peu attention à elle. J'attendais plus avec joie et anxiété les promenades que nous faisions le soir, Zoé et moi, que Élise pour faire l'amour. Zoé était calme, douce. Élise était un véritable torrent fougueux. Lorsque nous faisions l'amour, elle était tellement impudique que j'en avais honte pour elle. Lorsque j'y pensais, je me disais que jamais Zoé aurait fait ce qu'elle avait fait. Zoé et Élise. Quant à mon oncle, je ne le voyais que très peu. Il semblait l'avoir oublié et même oublié sa famille. Souvent, Zoé pleurait à cause de cela. Je n'osais pas lui demander pourquoi elle avait de la peine. Mais en une de nos promenades, c'est elle qui m'en parlait. Elle avait tellement le corps gros. Me trompe avec une de mes anciennes domestiques. C'est une noire de 22 ans, suon et laide. Toute l'île le sait. Il ne se cache même pas pour aller la rejoindre. Dans sa corse, c'est honteux. Je lui pris le bras et la fait asseoir sur un banc du parc. Vous êtes gentil, dit-elle en essuyant ses larmes avec son mouchoir. Je n'osais rien lui dire. J'étais gêné. J'étais très triste de la voir malheureuse et furieuse contre mon oncle. Elle me vit triste, me donna un rapide baiser sur la joue, se leva, me tendit la main. « Venez, nous allons jusqu'à la cascade. » Je me levai et nous allions main dans la main jusqu'à la cascade. De cette scène que je me mis à l'aimer vraiment. Qu'elle se mit à m'aimer vraiment. Elle s'attacha plus à moi. Elle était plus tendre, plus intime avec moi. Lorsque nous étions ensemble, nous avions l'impression d'être très unis. Elle me menait à tous ses déplacements, aux fêtes africaines, où elle était invitée, aux visites qu'elle faisait aux pauvres, aux lépreux. Avec Élise, je m'aperçus avec effroi que j'avais cru l'avoir fait avec Zoé. Cette pensée me dégoûta. Comment ai-je pu penser à la pure et douce Zoé en faisant l'amour avec l'impudique Élise? Penser à Zoé alors que je faisais l'amour avec Élise et ses gestes impudiques me répugnaient. Élise devenait de plus en plus encombrante et exclusive. Elle jouait à l'amour fou et ne supportait pas que je sois avec sa sœur. Mais, comme elle avait peur de sa sœur, elle n'osait pas montrer ouvertement sa jalousie. Sans sa sœur, elle était sans ressources. Elle croyait que Zoé était aussi ma maîtresse. Un jour, elle me dit que si j'aimais une autre personne qu'elle, elle me tuerait. Mes occupations amoureuses, je languissais du pays de mon enfance, de vous, père. J'aurais souhaité partir, mais je n'osais pas. Mon oncle qui continuait à penser que je pouvais l'aider, Zoé que j'aimais et qui semblait avoir besoin de moi et de mon amitié. J'étais de plus en plus agacé par les scènes que me faisait Élise, malgré le plaisir physique qu'elle m'apportait. Mais j'en avais de plus en plus honte. Car, dans l'axe sexuel, la jouissance qui est très forte chez un jeune homme de 17 ans, je me mettais à rêver à Zoé. Un jour, l'on ramena Edmond malade. Il était tombé évanoui à son travail et avait de la fièvre. Le médecin de Lille dit qu'il fallait qu'il fasse des examens à l'hôpital. Comme il n'y avait pas d'hôpitaux sur l'île, il dut prendre le bateau pour Abidjan. Zoé était très inquiète. Elle aurait aimé accompagner son mari, mais il refusa. Elle devait rester pour suivre les affaires. Moi, j'étais triste pour Zoé, car je savais qu'elle l'aimait. Midi, alors que Zoé était partie à la mine, Élise vint dans ma chambre. Comme je savais ce qu'elle voulait et qu'elle savait ce que je savais, nous ne parlions plus. Avant, il n'y avait plus de préambule. Elle ferma la porte. Elle quitta sa robe, moi je me déshabillais et nous nous mettions au lit. Je ne pensais à rien d'autre que le plaisir, car elle faisait vraiment bien l'amour. Mais durant l'acte, j'étais tellement pris, mes fantasmes reprirent et je pensais que je le faisais avec Zoé. C'était tellement fort qu'au moment de jouir, je me mets à crier « Zoé !» Lors d'un coup, Élise me sortit et me gifla. « Salaud, fumier! Tu n'emporteras pas au paradis !»
Alors, tu te payes ma sœur aussi ? Elle se dégagea, sortit du lit.
Je n'osais pas bouger. Elle remit sa robe et partit en claquant la porte.
Je restais abruti, mais pensais qu'elle allait se calmer. Je la retrouvais au salon.
Malheureusement, elle ne se calma pas. Elle se mit à hurler, à crier. Elle disait qu'elle m'aimait vraiment. Puis, elle quitta la pièce comme une furie.
Je ne la vis que toute la journée.
Le soir, j'étais seul à prendre mon dîner. Zoé n'était pas de retour. J'allais me coucher. Quelque temps après, j'étais endormi. Lorsque, entre le veil et le sommeil, je ne fus pas vraiment réveillé par un petit bruit. La porte de ma chambre s'ouvrit. Un domestique noir entra en faisant en sorte de faire le moindre bruit possible. Il portait à la main un grand panier en osier. Il l'ouvrit et partit. Il faisait très chaud et je ne m'étais pas tout à fait réveillé. Je ne pouvais ni bouger ni parler. Tout à coup, sortit du panier un gros serpent de la famille des Séphies. Son poison paralyse progressivement et l'agonie dure des jours. En voyant cet animal s'approcher de mon lit, je me crus dans un cauchemar et j'étais comme paralysé ou hypnotisé. Il monta sur le lit et à travers mes couvertures, il me piqua la jambe. Je poussai un cri de douleur. L'animal, après m'avoir piqué, mourut sur le champ. J'allumai la lampe de chevet. La jambe me faisait mal, terriblement mal, et je sentais qu'elle se raidissait. Je regardais l'animal mort sur le lit. Je le reconnus. J'étais perdu. Je savais qu'il n'y avait aucun contrepoison et que j'allais mourir paralysé. Petit à petit, j'allais me paralyser et mourir au bout de quelques jours. J'essayais de me relever, mais impossible. La porte s'ouvrit. Que le noir qui m'avait apporté le panier en osier où se trouvait l'animal. Il courut à moi. « Maître, maître, oh, pardonne-moi, maître. Ma maîtresse, c'est elle qui m'a dit de faire, madame. C'est madame Élise. Pardonne-moi, maître. » Je n'avais plus la force d'être en colère. « Et où est ta maîtresse ? » ?»« Elle est partie en courant. » Lorsque je lui ai dit que j'avais apporté le serpent, elle est partie comme une folle en haut de la cascade et s'est jetée. Je n'ai pas pu la rattraper à temps. Elle courait trop vite. Oh, maître, maître, pardonne-moi. Je restais quelques minutes sans rien dire. Je n'avais qu'un seul désir, c'était retourner chez toi, te revoir, père, et mourir en paix. Comment tu t'appelles ? Hello, maître. Écoute, Hello. Je veux retourner chez moi. Tu vas m'aider. Il fit oui de la tête. Après ma voix faible remontant, habillé, il me porta jusqu'à la plage et me déposa sur une barque où il y avait un mât et une voile. La mer était houleuse, le temps pas sûr, mais nous sommes partis. La traversée fut dure et je souffris beaucoup. Je pensais à Rimbaud, à son retour en France avec sa jambe malade.
Et loup fut brave. Je ne lui en voulais pas de ce qu'il avait fait. Ce n'était pas de sa faute. Il avait obéi, comme on lui avait appris qu'à obéir. Je suis chez vous, père, et je souffre beaucoup. Tout ce que je viens de te dire, je ne te l'ai dit qu'en pensée, car je souffre beaucoup trop. Ô père, je souffre tellement. Regarde son fils endormi. Le jour s'est levé, la mer est calme et il fait soleil. Le médecin ne tardera pas à venir. La sonnerie du téléphone retentit. Pierre court au salon. C'est peut-être le médecin. Non, c'est une voix de femme. Allô, c'est vous, Pierre? Oui. C'est Zoé. Je suis très inquiète. J'étais voir mon mari à l'hôpital et je reviens, il n'y a plus personne. Un noir m'a dit que Sylvain était parti en barque sur la mer. J'ai pensé qu'il serait peut-être chez vous. Oui, il est là. Et Pierre raconte tout ce qu'il sait. Mon Dieu, j'arrive. Pierre est retourné dans la chambre de Sylvain, qui dort toujours. Pierre n'arrive pas à se faire à l'idée que son fils est venu pour mourir. Il aime son fils. C'est pour cela qu'il a accepté que son frère le prenne pour qu'il puisse se faire une situation. Il s'est assis près du lit. Il lui a pris la main. Cette main douce et chaude. Il l'a élevé seul. Sa femme était morte lorsqu'il avait 5 ans. C'est pour oublier la mort de sa femme qu'il est allé se terrer dans ce foutu pays. Est arrivé le lendemain matin. Il a examiné Sylvain et a dit à Pierre qu'il n'y avait rien à faire. Il a fait une ordonnance contre la douleur et la fièvre. Sylvain s'affaiblit d'or en or. Pierre est toujours près de lui. Il demande toujours si Zoé va arriver. Si elle arrive, il sera trop tard. Je suis si là. Petit jour, Pierre s'est assoupi. La fenêtre était ouverte et le vent l'a réveillé. Il tenait toujours la main de Sylvain. Il s'aperçut que cette main était étrangement froide et inerte. Il se pencha vers Sylvain. Il avait le regard rigide et les yeux grands ouverts. Pierre lui donna un baiser sur le front et lui ferma les yeux. « Je t'aime, Sylvain. » Deux heures après, arrive Zoé. Lorsqu'elle approche de la maison, elle sent la mort. Son corps saigne. Elle n'aimait pas Sylvain d'amour, mais elle l'aimait d'amitié et savait que Sylvain l'aimait. Elle frappe à la porte et Lou lui ouvre. Il est en pleurs. Elle le gifle. Part en courant. Pierre arrive, la fait entrer. Bonjour Pierre. Bonjour Zoé. Il est
Oui, je sais. Elle fait un pas.
Élise était folle alliée. C'est pour cela que je la gardais avec nous. Elle avait déjà failli poignarder un de ses amants. Puis, elle se tait, ferme les yeux, les rouvre. Ils sont noyés de larmes.
Il est en haut?
Oui. Pierre la voit monter les escaliers. Elle s'arrête un moment, se retourne vers Pierre. Je savais qu'il m'aimait. Puis, elle continue de monter. Dans sa série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Afrique, Tristesse. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.